Bonjour à tous et à toutes, il est 18h et tout de suite c'est Première Page sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Non, c'est pas vrai!
Qu'est-ce que tu dis?
Maman ne m'a pas puni, tu n'as pas bien écrit.
Qui t'a dit qu'on t'avait puni?
C'est écrit là!
Voyons, voyons, mais... Tu sais lire?
Première Page, c'est la chronique littéraire pour lecteurs décomplexés. Un vendredi sur deux, à 18h, sur Radio Campus Paris. Dans ce quatrième épisode, nous mettrons à l'honneur la fiction historique avec Le Chant d'Achille de Madeleine Miller. Quand un jeune prince exilé fait la rencontre d'un demi-dieu, c'est le début d'une romance bouleversante au cœur de la Grèce antique. Je m'appelle Louisa Georges et vous écoutez le quatrième épisode de Première Page, un vendredi sur deux, à 18h, sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Je ne veux plus que Marcel rentre dans une classe, ni même ouvre un livre, avant l'âge de 6 ans. Laissez-le encore un peu faire l'enfant.
Si j'ai brièvement eu l'occasion de vous en parler, je vais profiter de cet épisode pour revenir plus en détail sur mes études et la place qu'a pu prendre la lecture au cours de ces dernières. Spoiler, aucune. Enfin, si. Mais ce que j'appellerais une lecture scolaire. On est en plein cœur de la contrainte évoquée au premier épisode. Les livres ont vocation à être lus, fichés, appris. En somme, les manuels sont légion et il reste peu de place pour la simple lecture récréative. J'ai fait des études d'histoire. 5 ans exactement. Oui, le pack complet. J'ai vu, lu, appris des choses intéressantes, des choses très intéressantes, et d'autres qui n'ont jamais trouvé grâce à mes yeux. Cet épisode a vocation à me réconcilier avec l'une d'elles, l'histoire antique. Quand on est plus jeune, en général, c'est ce qui nous intéresse le plus. Enfin, dans mon cas, ce fut le premier coup de cœur historique. Quand on y pense, c'est tout de même plus amusant de retenir le nom des déesses grecques que les dates clés de la fondation du communisme ou des rouages de l'économie féodale. Pourtant, arrivée à l'université, j'ai détesté l'histoire antique pour les mêmes raisons qui me l'ont fait aimer plus jeune. Cette drôle d'impression d'étudier une histoire totalement fictive. Lorsque l'on étudie cette matière à la fac, on nous explique bien que tout fait historique est à relativiser et que différencier le mythe de la réalité n'est pas envisageable. En effet, tous deux ne font plus qu'un dans les sources qu'il nous reste, seuls témoins de cette époque. Je pense que le manque de concret, de sources tangibles, a fini par me désintéresser. Or, bizarrement, c'est là que notre livre rentre en jeu. Car si cette œuvre a sa place dans cet épisode, c'est pour l'exploit que réalise notre autrice de me faire apprécier de nouveau l'histoire antique. Non pas comme une matière à réviser, mais comme une fiction épique, dépaysante et éminemment romantique. Posez ces fiches de révision, oubliez vos partiels de mi-semestre, l'épisode du jour est dédié au Chant d'Achille de Madeleine Miller.
De ce jour, notre bel Hercule devint l'idole des foules. Il était plein de flamme, de charme et si cool.
Oh yeah! C'est géant,
Hercule dans le vent.
T'as les grâces en grâce, on chante qui est le plus grand.
C'est un pro,
l'Apollo du show.
Un monstre sacré qui met tous les monstres KO.
Il n'était personne,
zéro, zéro.
Il tire le banco.
Les fins connaisseurs l'auront reconnu, il s'agit bien d'un extrait de l'excellente bande originale de Hercule, parue en 1997, qui a bercé une bonne partie de mon enfance et me fait chanter et rire encore aujourd'hui. Ce dessin animé fait sûrement partie de mes références les plus solides sur la question. Mon Dieu, l'épisode s'annonce folklorique! Si mes professeurs d'histoire antique m'entendaient, ils s'arracheraient sûrement les cheveux. Mais qu'ils se rassurent, l'ouvrage du jour est là pour relever un peu le niveau. Bon. J'exagère. En tant qu'historienne qui se respecte, j'ai tout de même fait mes petites recherches. Rendez-vous compte, pour écrire cet épisode, il m'a fallu replonger dans l'Iliade et l'Odyssée, qui avait été un pur calvaire à lire, faisant remonter mes lointaines années collège. Considérées comme de chefs-d'œuvre de la Grèce antique, ces deux épopées sont attribuées au poète grec Homère. Rédigée au 8e siècle avant Jésus-Christ, cette vaste production littéraire est un outil de recherche à part entière, livrant des étapes essentielles pour envisager au mieux l'Antiquité grecque, à commencer par la guerre de Troie, dont l'Iliade est le récit fondateur. Cet événement crucial ne cesse de fasciner et d'inspirer les artistes de tout temps. Il ne sera pas question ici du célèbre cheval éponyme, ni de Brad Pitt d'ailleurs, mais d'une approche plus individuelle, d'une histoire dite par le bas, dans laquelle le focus n'est pas sur les grands événements, mais sur des individus ordinaires, dont les histoires, expériences nous inspirent. Bon, on ne parle pas ici de Monsieur Tout-le-Monde, car il est tout de même question du demi-dieu Achille et de son compagnon, slash ami, slash amant, Patrocle. Les dénominations sont nombreuses dans les études sur le sujet pour identifier la relation des deux personnages, mais ce sera bien une histoire d'amour que nous contera Madeline Miller dans cette œuvre. Mais alors le chant d'Achille, ça parle de quoi ? C'est l'histoire de Patrocle, prince exilé dans la cour du roi Pelée, sur l'île de Phthie, en Grèce, au sud-est de la Thessalie. Il y fait la rencontre du jeune Achille. Tous deux ont le même âge et deviennent rapidement inséparables. Notre héros est un garçon humble, maladroit, sensible. Tout semble l'opposer au fils de son nouveau protecteur, demi-dieu par sa mère, la nymphe Thétis. Débordant de confiance en lui, Achille est promis à un avenir grandiose, bien loin de la condition de son nouveau camarade de jeu, qui deviendra malgré tout son plus proche compagnon. L'autrice donne alors une place centrale à nos deux héros, nous faisant suivre à travers la narration de Patrocle l'évolution de leur histoire. L'intrigue se déroule aux environs du XIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est donc à la manière du récit homérique que nos deux protagonistes évoluent au cœur de la mythologie grecque, voyant leur destin changer au rythme des oracles, déclarations de guerre et stratagèmes divins. Si la première moitié de l'ouvrage s'apparente à un roman d'apprentissage, dans lequel on voit grandir Achille et Patrocle, leur éducation en tant qu'homme, leur éveil sur le monde, sur la science, la guerre, la sexualité, la deuxième partie du livre nous propulse en pleine guerre de Troie. Achille occupe en effet une place centrale dans les conflits qui opposent les Achéens aux Troyens pour récupérer la belle Hélène. L'intrigue suit le rythme de l'Iliade et on y retrouve les acteurs majeurs du conflit. Ulysse, Agamemnon, Hector, Paris, mais également certaines apparitions divines, comme Thétis, Zeus ou Poséidon. Historiquement, la guerre de Troie n'a jamais été aussi simple à appréhender. Bon, après, d'un point de vue plus scientifique, Madeline Miller a pris certaines libertés dans le récit. Ne vous reposez pas sur ce roman pour créer vos fiches de révision, vous pourriez avoir de mauvaises surprises. Si l'inspiration de l'Iliade est évidente, certains événements de l'histoire, comme le sort d'Iphigénie, diffèrent de l'épopée originelle. Si certains rebondissements se veulent plus modernes, je suis un peu déçue par la manière dont les femmes sont traitées dans le roman, souvent trop romancées, voire quasiment invisibilisées. Hormis Briseis, dont le rôle est réellement bien écrit et évolue intelligemment, ses comparses restent malheureusement au second plan, ratant une belle occasion d'apporter une nouvelle envergure à l'œuvre. Manquement bien dommage face à la richesse historique du roman. Que ce soit sur les stratégies militaires, l'alimentation ou les cultes religieux, le livre offre une réelle immersion historique, que l'on doit notamment au parcours de son autrice. Née en 1978, à Boston, Madeline Miller est une écrivaine américaine. Professeure de grec et de latin au lycée, Le Chant d'Achille est son premier roman. Paru en 2011, il lui vaut le Belles Women Prize for Fiction. À sa sortie, le livre reçoit un accueil général positif des critiques. Mais c'est en 2021 que son succès explose après qu'une utilisatrice du réseau social TikTok le mentionne sur son compte. En effet, cette publication entraîne une vague d'engouement pour l'autrice et son histoire dans la communauté littéraire du réseau social, appelée aussi le BookTok. Mais alors, quelle est la genèse du récit ? À l'université, l'autrice met en scène Troïlus et Cressida de Shakespeare, une pièce inspirée de la mythologie grecque et notamment de la guerre de Troie. Elle décide alors de lancer un travail de recherche sur Achille pour écrire sa propre version de l'histoire, basée sur le point de vue du jeune demi-dieu. Elle en apprend alors davantage sur son jeune compagnon, Patrocle. Si l'amitié entre nos deux protagonistes est survolée par Homère, mais bien présente dans l'iconographie Renaissance, la vie de notre narrateur reste en second plan dans le récit. L'écrivaine se prend alors de passion pour le jeune prince et son rôle dans l'Iliade. Rôle que je vous déconseille d'ailleurs de rechercher si, comme moi, vous voulez conserver un peu de suspense lors de votre lecture. Madeline Miller décide donc de dédier son ouvrage à ce dernier, mettant la relation des deux amants sur l'avant-scène de l'épopée homérique. Mais alors, pourquoi pourquoi ai-je tant aimé ce livre ? Déjà, pour l'expérience immersive qu'il propose. Avec le chant d'Achille, on est loin de la fiction historique à la Jean Tellet, écrivain décédé dernièrement dont j'affectionne tout particulièrement l'œuvre, que je qualifierais plutôt de démolisseur de roman national, concept que j'approuve complètement, ne vous y trompez pas. Si Jean Tellet est l'anti « c'était mieux avant », nous dépeignant des épisodes de l'histoire toujours plus sanglants et comiques, Madeleine Miller nous donnerait presque envie de s'allonger dans les champs d'olivier entre les cigales et la douce musique d'une lyre. L'immersion est totale et l'écrivaine s'est donné vie à cet univers, nous projetant au plus près de la vie de nos personnages. Lorsque je parle d'histoire par le bas, c'est exactement ce que j'ai aimé dans ce récit. Pour moi, l'histoire avec un grand H n'est pas sur les champs de bataille ou dans les grands discours, mais se cache dans les détails. Que mangent nos héros ? Comment s'habillent-ils ? Où dorment-ils ? Car sans détails, comment se projeter réellement dans cette époque, si connue et pourtant si mystérieuse ? La description qui m'a sûrement le plus marquée est celle de la rencontre entre nos protagonistes et Chiron, le centaure qui servira de précepteur à Achille avant son départ pour Troie. Le récit de cette réunion insolite était tout à fait fascinant et étonnamment réaliste. C'est d'ailleurs ce qui est déstabilisant dans cet ouvrage, ce mélange permanent entre la fiction et le réel. Et cette réalité, c'est Patrocle qui en est le garant. Ce dernier semble à notre rythme découvrir tout cet univers mythologique, contrairement à Achille qui, lui, en tant que demi-dieu, a grandi dans cet univers légendaire. L'enthousiasme de notre narrateur le rend attachant, car on est vite amené à s'y identifier. On partage son émerveillement, sa surprise. Ce qui me fait revenir sur le deuxième point fort de ce roman, la qualité des protagonistes et des liens qui les unissent. J'insiste sur Patrocle, car il est l'une des plus belles surprises de l'ouvrage. Parti de rien, je craignais une personnalité plate, éclipsée par l'aura de son puissant acolyte. Or, on assiste finalement à une réelle évolution de ce dernier. Un garçon courageux, sensible, réfléchi, déconstruisant à lui seul les stéréotypes virils si présents dans les récits épiques. Achille, en revanche, est progressivement rongé par le poids de ses responsabilités. En tant que demi-dieu, il incarne à mon goût, par opposition, la désuétude d'un homme dépassé par les attentes projetées sur son sexe. Son orgueil, sa démagogie, son immaturité le mènent finalement à sa perte. Il sent Patrocle au rang de personnage le plus épique, dont le courage finirait presque par surpasser les plus grands héros de cette histoire. Mais au-delà de leur personnalité, ce qui rend ce livre si touchant, c'est la beauté des liens qui unissent nos deux protagonistes. Loin des rapports inégaux entre jeune homme et homme mûr, considérés comme comportements sociaux tolérés dans la Grèce antique, la relation qui unit les deux amants est belle, sincère et éminemment moderne. Tous deux communiquent et évoluent ensemble, bien loin de mes premiers a priori. Car oui, j'avais certaines réticences sur ce que l'on m'a recommandé ce roman. Ouvrage phare du BookTok, dont je vous parlerai dans un prochain épisode, je craignais une énième fanfiction romantique dont le propos a tendance à me faire grincer des dents. Même si je sais que ce ne sont que des préjugés sur lesquels je tente de progresser, quand je commence le chant d'Achille, certains éléments me refroidissent. Je retrouve cette surinterprétation des gestes et des émotions propres au récit qui me blase habituellement. Je suis inquiète face aux prémices de cette relation inégale entre un garçon timide et maladroit et un beau jeune homme solaire et puissant. Si le début de leur liaison laisse entendre des rapports déséquilibrés pour la suite de l'histoire, les liens évoluent avec l'âge des personnages, offrant une romance émouvante et bien ficelée. L'autrice nous offre d'ailleurs à la lecture des scènes intimes particulièrement intenses et réalistes. Si j'avais quelques craintes face à leur première rencontre, je suis finalement très agréablement surprise par l'évolution de leur rapport. Enfin, j'ai particulièrement apprécié la manière dont l'autrice fait rapidement de l'homosexualité un non-sujet dans l'œuvre. On sait que nos deux héros ne peuvent assumer leur amour au grand jour, mais la majorité des protagonistes de l'histoire sont au courant de cette union. Un accord tacite semble en effet lier tous nos personnages, à condition que les devoirs de chacun soient respectés, ce qui induit malheureusement un départ pour Troie. Si les deux amants tentent à de nombreuses reprises de tromper le destin, la fin de l'histoire semble déjà inscrite dans la pierre, menant inévitablement nos deux héros à leur perte, signant la fin tragique de cette idylle. Pour aller plus loin, je recommande « Le silence des vaincus » de Pat Barker, paru en 2020 chez Charleston, pour envisager la guerre de Troie à travers les yeux de Briseis, femme troyenne réduite à l'esclavage lors du conflit. Circé, le deuxième roman de notre autrice, paru en 2019 chez Pocket, ou encore de retrouver nos deux héros, mais cette fois en déambulant au Louvre, dans le département des peintures. C'était le quatrième épisode de Première Page. Rendez-vous dans 15 jours, même heure, pour une prochaine lecture sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.